Chapitre 38. La chevauchée des grands moulins. Rick serrait entre ses mains les rênes d'Atlas, le vieux cheval fatigué de Titouan, un éleveur qui avait rejoint les rebelles arc-en-ciel. Derrière lui, les 10 autres compagnons étaient juchés sur les montures qu'ils avaient pu trouver. 4 autres chevaux de trait, 3 ânes, 2 poneys et un lama sans doute échappés d'un zoo. Un labrador courait à leur côté. Une cavalerie improbable qui ne risquait pas d'effrayer la quarantaine de gardes chargés 5 mètres plus bas, en bord de Seine, de surveiller les grands moulins. Partout dans la ville et dans les campagnes alentour, les linceuls des teinturiers flottaient. Les soldats, sans doute sur la recommandation d'Isalis, avaient renoncé à les décrocher. Plus ils les enlevaient, plus il en apparaissait de nouveau, comme un défi à l'autorité. Après tout, avait dû penser la consul aux distractions, les laisser pendre ne changeait pas grand-chose. Les étendards perdaient même tout intérêt si la garde impériale s'en désintéressait. Les renforts reçus par Rick avaient donc été modestes, moins de 20 déserteurs des corporations, mais Constel, Valère, Sabi, Akan, Zizo et les autres soutenaient que ce n'était qu'une question de temps. Ils avaient distribué des centaines de feuilles de chou clandestines pour expliquer qu'Ogénor n'était pas le fils de Marie-Lune et qu'il était responsable de l'empoisonnement des animaux quand ils avaient 12 ans, même si presque tout le monde avait oublié cette vieille histoire.
« Le plus important, » affirmait Constel, « est d'informer. »
« Et de montrer qu'une fissure dans le mur s'est ouverte, » précisait Zizo. « Qu'on dispose d'une force suffisante pour le renverser, » ajoutait Akan.
« La liberté finit toujours par l'emporter !»
clamait Sabi.
« Les révolutions naissent d'une étincelle, une seule !» certifiait Valère.
Rick observa l'imposant bâtiment haut de 7 étages, plus long qu'un paquebot, qui depuis des siècles ravitaillait toute la ville en farine. Une cathédrale de béton vers laquelle on acheminait le blé de tout l'Empire pour le broyer, le trier, le nettoyer, le blanchir. Le plus grand moulin du monde dans le monde d'avant, et plus encore dans celui d'aujourd'hui. Les tonnes de farine stockées dans les silos étaient devenues stratégiques. La plupart des compagnons du Nouveau Monde n'avaient au fond besoin de rien, sauf de pain. En contrôler la production, c'était s'assurer d'une protection contre toutes les révolutions. Plus de 100 compagnons et prémats travaillaient sur place, regroupés en plusieurs corporations. Meuniers, mais aussi récolteurs, transporteurs, trieurs, écraseurs, pétrisseurs, boulangers. La carte d'Haussmann était formelle. Le moulin sublime se trouvait forcément sur ce site. Rick sentait, entre sa cuisse et la peau d'Atlas, la bosse formée dans sa poche par le sublimateur. Suait un moulin pour que survivent les plus utiles. Il savait que c'était à eux, les compagnons, de détruire ce moulin-ci. Et tant pis si c'était sa dernière mission. Il jeta un regard au labrador.
« Seuls à jamais !»
cria Rick.
« Plus jamais seuls !»
répondirent les 10 partisans. Tous brandirent leurs armes de fortune, râteaux, pelles, battoirs, et dans un galop désordonné, dévalèrent la pente. Les soldats assurant la défense des grands moulins furent d'abord surpris. Garder les entrepôts de farine était une tâche plutôt tranquille d'ordinaire, bien davantage que d'aller traquer les rebelles ou de faire régner la terreur dans les corporations. Ils se précipitèrent sur leurs arcs, beaux d'acier et boucliers, mais remarquèrent bien vite à quel point la charge était pathétique et désespérée. 11 assaillants, à peine armés, contre une division de 40 soldats parfaitement entraînés. À mi-pente, la cavalerie ralentit. Les gardes crurent même un instant qu'ils allaient piteusement faire demi-tour. Les rebelles repartirent pourtant de plus belle, aussi vite que leur pauvre monture le permettait, déployant tous, bras tendus, l'étendard multicolore des teinturiers.
« Vengeance !»
cria Rick à plein poumon.
« Vengeance et liberté !»
Et tous reprirent son cri.
« C'est le capitaine Blanc !» murmura un garde. « Je croyais qu'il avait été exécuté !»
fit un autre.
« Vengeance ! Vengeance et liberté !»
continuaient de scander les cavaliers et drapeaux au vent. Ils étaient maintenant à portée de flèche. Une seule salve les faucherait.
Vous entendez ?
Fit un troisième.
Leur cri ? Non, les moulins !
Les moulins ?
Non ? Justement, c'est pas normal !
En temps ordinaire, le bruit des meules et des battoirs était assourdissant, au point qu'on peinait à se parler. Or, les soldats impériaux entendaient distinctement les cris des cavaliers. Les moulins étaient arrêtés. Les gardes impériaux hésitèrent quelques secondes entre se retourner et continuer de viser les cavaliers. Quelques secondes de trop. Une pluie de cailloux, de rondins de bois et de sacs de farine s'abattit soudain sur eux, alors qu'un cri résonnait dans leur dos.
« Vengeance ! Vengeance et liberté !»
En quelques secondes, les gardes furent débordés. Ils devaient se battre à 1 contre 3 et n'avaient qu'une envie face à la colère et à la détermination des ouvriers qui avaient abandonné leur poste pour les attaquer, fuir. La débandade fut immédiate. Pour éviter la lapidation, plusieurs soldats déchirèrent leurs tenues impériales et se couvrirent d'un drapeau arc-en-ciel. Les autres se rendirent en levant les mains. Quelques-uns tentèrent de s'échapper mais furent rapidement rattrapés. Une clameur s'éleva, rebondissant en écho entre les hauts murs de béton des silos.
« À bas l'empereur ! Vengeance !
Libération !
Vive la révolution !
Vive l'empesteur immortel !
Vive le capitaine blanc !»
Et ce dernier cri fut répété 10 fois. « Vive le capitaine blanc !» Alors que les ouvriers cherchaient partout leur libérateur, sans le trouver. Le Labrador courait ventre à terre en direction d'une petite maison de briques construite à l'ombre des grands silos de farine. Rick le suivait aussi vite qu'il le pouvait, et prenant Atlas pour qu'il continue de galoper. Le chien aboya devant la porte, laissant à l'albinos le temps de le rattraper. Il se trouvait devant le pavillon des Porions, ses soldats chargés de surveiller la production des ouvriers et, si la cadence n'était pas assez rapide, de les fouetter. Il entra. La pièce, rudimentaire, comportait 4 lits superposés, 4 chaises et une petite table de bois. Une 10aine de cravaches et de fouets à lanières, à nœuds ou à clous étaient accrochés au mur. Des bocaux remplis de différentes sortes de céréales s'entassaient sur les étagères. Rick lut les étiquettes « blé, seigle, avoine, millet, orge ». Le chien fila droit vers le mur face à eux. L'empesteur leva les yeux. Agnel ne lui avait pas menti. Certains chiens disposaient eux aussi d'un instinct magnétoréceptif. Devant lui, entre une urne d'orge et une autre de malt, un bocal sans étiquette, posé sur un petit socle de fer, contenait de la poudre jaune vif. Un moulin pour que survivent les plus utiles. La phrase était gravée dans le bois de l'étagère. Rick s'avança, sublimateur à la main. 10, 9, 8. La boussole vibrait déjà. Son cadran jaunissait entre ses doigts. Le capitaine blanc mesurait toute la solennité de l'instant. Le nuage de Pandorium avait balayé de la surface de la planète tous les travailleurs, tous ceux qui creusaient, bêchaient, foraient, fouillaient la terre, tous ceux qui l'avaient épuisé depuis le début de l'humanité sans rien y gagner, tous ceux qui avaient été sacrifiés dans les mines, les champs et les usines bien avant le passage du nuage. 7, 6, 5. Il disposa la rose des vents sur le socle de métal. La poudre d'or bouillonna, tels des épis de maïs qu'on broie pour en faire de la polenta, avant de virer au gris sarrasin, puis au noir seigle.
« Et de 4 !»
fit une voix. Rick se retourna. Zizo, Akan et Sabi se tenaient derrière lui. La Lolly Girl n'hésita pas et se jeta dans les bras de l'empesteur.
« On a gagné ! La révolution vient de commencer !»
Valère avait raison, poursuivit Zizo. « Il a suffi d'une étincelle !» L'annonce de la chute des grands moulins va se répandre comme une traînée de poudre dans toutes les corporations. Depuis quelques jours, les drapeaux arc-en-ciel fleurissent partout. On raconte que les ferrailleurs établissent des barrages sur les ponts de Paris, que les ripeurs abandonnent les déchets dans les rues, que les trayeurs ont versé toutes leurs réserves de lait dans la Seine. Akan observait avec retenue le chien allongé, les bocaux de céréales alignés, puis, par la fenêtre, les ouvriers qui dansaient, la Seine qui s'écoulait tranquillement, la flèche du sanctuaire qui veillait sur Paris. « Cet incendie ravagera tout, » commenta-t-il. « Nul ne pourra l'arrêter. Espérons que, quand tout aura brûlé, quelque chose repousse. Après. »